RFI Midi. Florent Guignard.
La guerre est donc déclarée entre l'élite des clubs de foot européens et l'UEFA avec ce projet de Super League dont on vient de parler avec Antoine Grenier, projet qui vise directement à concurrencer la Ligue des Champions. Il y a 12 clubs fondateurs à l'origine de cette nouvelle compétition, hein, des clubs anglais, espagnols et italiens. On en parle tout de suite avec notre invité Nicolas Xismartov. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à SoFoot et vous avez écrit un article sur cette Super League intitulé tout simplement « C'est l'Europe qui craque ». Est-ce que vous parleriez d'un schisme dans le football européen aujourd'hui ?
C'est en tout cas l'expression de ce schisme. Ça fait un bout de temps qu'on voit apparaître les signes avant-coureurs de cette logique. La Super League, elle est en projet depuis plus de 20 ans et elle est régulièrement sortie par ces grands clubs pour faire pression sur l'UEFA, qui d'ailleurs en général cédait et aménageait la Coupe d'Europe pour leur faire plaisir. Mais oui, on est face à un schisme parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on nous explique là ? C'est que dorénavant, l'étage supérieur du football européen ne sera plus le tout en haut de la pyramide qui part des clubs amateurs dans chaque pays européen pour aboutir au champion de chaque pays, puis ensuite à la Coupe d'Europe. Ça sera quelque chose de presque hors sol, de quelque chose qui existerait pour lui-même et par lui-même, qui serait presque destiné d'abord à un public mondialisé comme la NBA, par exemple, aujourd'hui un peu.
Le championnat de basket aux États-Unis.
Et voilà, le championnat de basket aux États-Unis. Et finalement, pourquoi pas imaginer un jour que la Juventus déménage son stade à Shanghai, puisqu'après tout, cette Super League aurait presque plus de relation avec l'histoire du football européen. Oui, on est en face de cette... Mais c'est la manifestation de quelque chose qui couve depuis quand même très longtemps, au moins deux décennies, et qui s'exprime, et qui là, pour le coup, hier, a explosé de manière un peu plus virulente.
Vous disiez que c'était, depuis 20 ans, une espèce de moyen de pression des clubs de l'élite face à l'UEFA. L'UEFA, hier soir, a mal réagi en menaçant d'exclure ces 12 clubs de la Ligue des Champions. Est-ce que ça peut être dissuasif pour ces clubs ?
Là, c'est très difficile à dire. Après, c'est l'arme de dissuasion absolue. C'est-à-dire que c'est la bombe atomique dont disposent l'UEFA et la FIFA face à ces clubs. C'est-à-dire qu'elle peut, comme ça a été expliqué, les dégager des compétitions nationales, des compétitions internationales, blacklister les footballeurs qui, évidemment, seraient privés de cette immense vitrine qui est pour eux les compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout ? C'est une première question. Deuxièmement, on sait que l'Union européenne et la Cour européenne a pour l'instant toujours donné plutôt raison au nom du libre-échange, de la libre circulation, etc., aux sportifs ou aux institutions qui voulaient se passer des fédérations. Donc il va y avoir d'énormes batailles juridiques qui vont se mettre en place. La force du football, c'est qu'il est mondialisé et la FIFA n'a pas de compte à rendre à l'Union européenne, par exemple. Le dernier point sur lequel je voulais quand même insister et qui est quand même pas négligeable, l'Union européenne, l'UEFA, a beaucoup, beaucoup à se reprocher. Parce qu'elle a elle-même transformé partiellement la C1 en ligue fermée. Regardez les derniers clubs qui l'ont remporté depuis deux décennies. Elle a quand même contribué à évincer toute une partie du football européen de cette compétition. Donc elle ne peut pas dire brusquement « Ah, c'est horrible, c'est abominable, c'est un scandale ». Elle est quand même complice de cette logique. Est-ce qu'elle vient de voter hier ? Parce qu'elle vient de voter aujourd'hui est quand même presque pire que ce qui est proposé par la Super League.
C'est l'argent qui est derrière tout ça. L'appât du gain. Ouais.
Alors là, pour le coup, sur la Super League, il y a zéro ambiguïté. Oui, c'est exclusivement l'argent. C'est sécuriser des revenus pour des gros clubs qui ne veulent plus vivre sous la menace d'une mauvaise saison ou de mauvais résultats, qui veulent être certains de jouer de pouvoir budgétiser à l'avance des recettes anticipées sur une compétition fermée. C'est clairement ça, en visant effectivement en plus l'élargissement à un public, comme j'ai dit, mondial, en Asie, etc. Ça, c'est évidemment, la Super League n'existe que pour permettre à des clubs de football de ne plus être tributaires de l'incertitude du sport, entre guillemets, si tant est que ça a un sens aujourd'hui. Mais voilà, c'est clair. Alors, par exemple, qu'il y ait Arsenal dans les principalement les clubs anglais d'ailleurs, qui sont le gros des troupes, c'est pas étonnant parce que c'est très dur de se qualifier en Angleterre. Il y a énormément de gros clubs qui peuvent y prétendre. Donc un certain nombre de ces clubs, maintenant, veulent être certains chaque saison de jouer une compétition européenne avec de gros revenus.
Pourquoi le Paris Saint-Germain ne fait pas partie de ces 12 clubs ?
Moi, je pense qu'ils sont attentistes. Je pense qu'ils regardent un peu le spectacle. Ils se doutent que la FIFA et l'UEFA ne sont pas non plus désarmés totalement, qu'il va y avoir un grand champ de bataille et que c'est plus simple de ne pas rentrer dedans pour le moment, pour une question stratégique. C'est-à-dire que si jamais l'UEFA et la FIFA l'emportent et brisent les clubs scissionnistes ou les font rentrer dans le rang, en ayant quand même cédé beaucoup, hein, pas de passé, je rappelle, hein, c'est la C1 aujourd'hui, est-ce qu'elle va être demain, est largement construite pour eux. construite pour eux. Là, je pense qu'ils attendent de voir ce qui va se passer. Si l'UEFA l'emporte, ils passeront pour les gentils garçons qui sont bien restés dans le rang, qui ont soutenu l'institution. Si elle perd, il sera toujours temps d'accepter d'être invité, parce qu'on leur fera de toute façon un pont d'or. Donc je pense qu'ils ont intelligemment choisi de rester sur le bord du terrain en attendant de voir qui allait l'emporter.
Que pensent de ce projet de Super League les supporters, les téléspectateurs de football?
En Europe, je pense que c'est majoritairement rejeté. Il y a un attachement très fort à l'idée justement que j'expliquais auparavant, même si elle a été dénaturée, que cette compétition européenne était le reflet d'une culture, d'une histoire, d'un football qui commence, qui imprègne la société. Et les supporters, et en tout cas les plus organisés, par exemple les ultras, sont vent debout contre. D'ailleurs, y compris dans les clubs qui pensent rallier cette Super League. Pour le public plus large qui est visé en fait par cette Super League, qui est un public de consommateurs, un public qui a une culture foot aussi bien façonnée par les jeux vidéo que par les paris sportifs, là ça va être peut-être plus mesuré. Il y a juste une interrogation énorme. Est-ce que les 4 à 6 milliards promis par les tenants de la Super League chaque saison existent vraiment aujourd'hui? On a quand même vu avec Mediapro que surévaluer un produit n'était pas forcément une idée très intéressante ou intelligente en ce moment.
Et est-ce qu'il n'y a pas trop de foot déjà à la télé?
Bah exactement, et par ailleurs, hein, je pense que même si ils arrivent à mener à bout leur projet de Super League, l'UEFA va continuer avec sa C1. Qui va payer un surabonnement en plus pour un énième compétition? Donc par ailleurs, on ne sait pas quels joueurs y seront, parce qu'effectivement, pour le coup, la FIFA, elle, peut très bien décider toute seule, même si l'Union européenne oblige l'UEFA à accepter la Super League, l'UEFA peut décider que les joueurs ne viendront pas. Ça changerait beaucoup de choses, en tout cas, dans l'organisation des clubs. Non, on est vraiment devant énormément d'incertitudes et qui sont également économiques. Donc je ne sais pas, on va vivre des heures terribles et passionnantes, mais le football vient de vivre effectivement un schisme qui s'est manifesté et surtout un tremblement de terre auquel il n'était pas préparé.
Merci. Merci beaucoup, Nicolas Xismartoff, d'avoir répondu à nos questions, journaliste à SoFoot.